sûr qu'ils nous ont aidés dans l'adoration encore ce soir. Alors, merci beaucoup à Pierre Ministère. Allons dans 1 Pierre, chapitre 1. On va commencer la lecture au verset 3. Les ados vont avec Pasteur Jean maintenant derrière. Dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Je vais parler sur le sujet ce soir. Tu peux avoir la joie dans la souffrance. Donc, tu peux avoir la joie dans la souffrance. Généralement, on pense que la joie puis la souffrance sont deux choses contraires. Certainement pas qu'elles sont complémentaires. Généralement, nos vies sont passées en grande mesure à essayer d'éviter ou d'éliminer la souffrance. Mais qu'est-ce que la Bible en dit? Ça dit ici dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. » Paul Borthwick, c'est un enseignant et auteur qui était parti en Chine, puis il visitait un de ses amis qui était à Pékin, en Chine, et qui était enseignant là-bas. Puis M. Borthwick s'est rendu dans une église avec 4 jeunes hommes qui étaient des nouveaux croyants en Jésus, et puis qui étaient venus à Jésus à cause du ministère de son ami. Alors, il va à l'église ce dimanche-là, et puis le service au complet, toute la réunion était en mandarin. Paul Borthwick ne comprenait rien. Mais alors qu'il écoutait ou qu'il regardait du moins la réunion, puis qu'il sans rien comprendre, il trouvait que le pasteur était plat. Il ne comprenait pas le mandarin, mais tu voyais que le pasteur, premièrement, parlait doucement. Ça avait l'air ennuyeux. Il était un peu voûté. Puis il prêchait sans aucune émotion, sans aucune excitation, sans aucune gestuelle. Et même si on ne comprenait pas le mandarin, M. Borthwick se disait pas un très très bon prédicateur. Au déjeuner, après la réunion, Paul demande à ses 4 amis chrétiens, « Votre pasteur est-il un bon prédicateur? » Ils s'exclamèrent, « Oh oui, c'est un grand prédicateur. Il a passé de nombreuses années en prison pour Jésus-Christ. » Et puis il dit, « Leur évaluation du sermon et du ministère du pasteur n'avait rien à voir avec son habileté oratoire, mais tout à voir avec une vie fidèlement vécue dans la souffrance. » Ce que faisait qu'il était un soi-disant grand pasteur, ce n'était pas le fait qu'il savait bien parler, mais c'était qu'il avait bien souffert pour le Seigneur Jésus. Maintenant, aujourd'hui, on a tendance à glorifier les talents des gens, à glorifier les accomplissements des gens, les habiletés qu'ils peuvent avoir, leur richesse ou encore d'autres éléments du monde. Mais combien d'entre nous voyons comme grand, si on veut dire, à nos yeux, ceux qui ont beaucoup souffert pour Jésus. Vous savez, je crois que, et encore ce que je veux dire là, c'est excessivement subjectif. Mais je crois que lorsqu'on va être devant le Seigneur, beaucoup des gens qui auront apporté le plus de gloire à Jésus, ce ne sera pas des gens qui ont vécu en Occident avec tous les conforts que nous avons. Des gens qui ont démontré une grande foi, même dans l'hostilité, même dans la difficulté, même dans la persécution. Parce que pour nous, nous cherchons à éviter la souffrance.
Mais ceux qui vivent la souffrance pour le Seigneur Jésus, un jour vient où ils seront reconnus à leur juste valeur. Maintenant, Pierre, dans ses versets, va développer le thème que nos souffrances ont un effet grandiose, mais aussi une grande importance dans la vie chrétienne. Vous savez, en tant que chrétien, c'est important de souffrir. On n'aime pas souffrir. On cherche à éliminer la souffrance. Mais il va nous enseigner que si nous comprenons bien la souffrance, nous pouvons garder les yeux fixés sur Jésus dans la souffrance, puis avoir même de la joie. Bon, on va expliquer le mot joie, mais d'avoir de la joie dans la souffrance. Maintenant, c'est une série d'études des mercredis soirs. Donc, clairement, on est un peu plus pressé dans le temps que je le voudrais. Donc, certains versets qui sont magnifiques, on va devoir passer plus rapidement que je ne le voudrais, sans trop s'attarder comme je le voudrais. Mais si le Saint-Esprit le dirige ainsi, peut-être que dans les prochains mois, les prochaines semaines, on aura l'occasion de revenir sur certains de ces versets, selon ce que le Saint-Esprit dirigera. Mais remarquez avec moi, premièrement, le fondement de notre espérance dans les versets 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut pour être révélé dans les derniers temps. » Le fondement de notre espérance, c'est Jésus-Christ. Ajith Fernando, c'est un dirigeant chrétien du Sri Lanka. Puis il a un ministère auprès des pauvres dans les villes. Et M. Fernando avait écrit, « Dans chaque culture, l'Église a ses propres défis. Des angles morts théologiques qui empêchent les chrétiens de grandir jusqu'à la pleine maturité en Christ. » Puis là, M. Alejandro parle de nous. Il dit, « Je pense que l'une des graves lacunes théologiques de l'Église occidentale est une mauvaise compréhension de la souffrance. Il semble que l'on réfléchisse beaucoup à la manière d'éviter la souffrance, puis à ce qu'il faut faire lorsqu'on souffre. Nous avons beaucoup d'enseignements sur la façon d'échapper à la souffrance et sur la thérapie dans la souffrance. Il n'y a pas d'enseignement adéquat sur la théologie de la souffrance. La soi-disant bonne vie, le confort, la commodité, une vie sans douleur, sont devenus des nécessités que les gens en Occident considèrent comme des droits fondamentaux. J'ai le droit de ne pas souffrir. S'ils ne les ont pas, ils pensent que quelque chose ne va pas. Et l'un des résultats de cette attitude est une restriction sévère de la croissance spirituelle, car Dieu veut que nous grandissions à travers les épreuves. » Je crois qu'il a raison. On veut tellement ne pas souffrir qu'on se prive d'un des outils que Dieu emploie pour notre croissance spirituelle. Maintenant, souffrir en tant qu'enfant de Dieu, c'est complètement différent que de souffrir en tant que païen. Pour eux, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, leur espérance se trouve seulement dans ce monde, dans un changement quelconque de circonstances. Ou peut-être sur des idées qu'ils ne peuvent pas prouver, des idées folkloriques du ciel. Combien de temps avons-nous entendu quelqu'un dire « Ah ben là, papa est en haut, puis il est à la pêche avec mon oncle. » Des choses comme ça. Tu sais, des idées qui sont allées dans... Tous ceux qui meurent vont nécessairement dans un monde meilleur. Puis les gens disent des choses semblables sans appui de la parole de Dieu. Alors que Pierre écrit ici à ses croyants souffrants, il leur rappelle que eux, en tant que chrétiens, eux en tant qu'enfants de Dieu, ils ont une espérance vivantes depuis qu'ils ont été régénérés par le Seigneur. Depuis leur nouvelle naissance, la conclusion de leur souffrance a changé. Remarquez les deux parties de notre espérance en tant que chrétiens lorsque nous souffrons. Premièrement, il dit au verset 3, « Il nous a régénérés pour une espérance vivante. » Maintenant, une espérance, ça ne peut pas être vivant à moins que ce soit une personne. Pour que ce soit vivant, ce n'est pas seulement réel, mais vivant, c'est-à-dire une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est notre espérance. C'est lui notre espérance et ce n'est pas une espérance morte, il est une espérance vivante. Notre espoir à nous, ce n'est pas un concours de circonstances favorables. Ce n'est pas non plus qu'on s'en va dans un monde qui va être plus doux que le monde actuel. Ce n'est pas qu'on s'en va flotter sur un nuage après avoir souffert. Ce n'est pas seulement ça. Mais notre espérance, c'est que Jésus vient. Jésus est vivant et Jésus vient. Et lorsqu'il viendra, il mettra fin à toutes nos souffrances. Et en plus, il va nous récompenser pour la manière dont nous aurons souffert. Et est là notre espérance. Notre espérance, c'est que Jésus est vivant parce qu'il est ressuscité, et Jésus vient, il va mettre fin à nos souffrances, et en plus, il va nous récompenser pour nos souffrances. Quelle est la souffrance que vous traversez là, ce soir? On n'a pas à la nommer, mais si vous passez par cette circonstance-là, les regards fixés sur Jésus, par la foi, le jour vient où non seulement cette souffrance-là va finir, mais Dieu vous récompensera pour avoir passé par là. Parce qu'il nous dit, remarquez deuxièmement, que cette récompense, c'est au verset 4 ici, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Oui, Jésus est mon espérance. Une autre partie de mon espérance, c'est que Jésus me réserve un héritage dans les cieux, un héritage dont la pérennité est assurée. Le Seigneur va donner à ses serviteurs des récompenses qui ne peuvent se corrompre, qui ne peuvent pas se souiller, qui ne peuvent prendre fin d'aucune manière. Lorsqu'on souffre, on doit se rappeler que nous avons une espérance vivante. Cette espérance-là, ce n'est pas une guérison seulement, ce n'est pas juste que Dieu dise oui à une prière, que la circonstance s'efface. Mais notre espérance, c'est Jésus. Jésus qui est ressuscité, Jésus qui vient, et Jésus aussi qui va récompenser ceux qui, forcément, dans cette chair, auront souffert, et qu'il nous réserve un héritage dans les cieux qui est permanent. Puis ensuite, Pierre explique que nous qui sommes sauvés, nous sommes gardés jusqu'au jour du Seigneur. Puis nous sommes gardés par deux choses, remarquez au verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Pierre explique qu'on est premièrement gardé par la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'on peut poursuivre dans l'épreuve, dans la difficulté, jusqu'au jour du Seigneur? On est dans sa main à lui. Maintenant, dans le sens du salut, du pardon des péchés, Jean 10, 29 nous dit que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Malgré vos difficultés, malgré vos épreuves, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et Dieu saura vous garder jusqu'à la fin. Mais, aussi remarquez qu'il y a une autre part dans notre texte. Non seulement par la puissance de Dieu, mais vous êtes gardés par la foi. Non seulement Dieu nous garde, mais aussi notre foi nous aide à endurer jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Oui, on est délivré de l'épreuve si on meurt, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le Nouveau Testament ne nous encourage pas à avoir hâte à la mort. On vit dans un jour, des fois, où les gens ont hâte de mourir. Mais honnêtement, la Bible ne nous enseigne pas à avoir hâte de mourir. Elle nous enseigne à avoir hâte au retour du Seigneur Jésus. Si Dieu permet que je meure avant son retour, alors ce sera sa volonté. Mais vous savez, des fois, les gens disent « Ah, moi j'en ai assez de vivre, je veux juste mourir. » On ne voit pas cette attitude-là dans la Bible. Mais nous avons hâte au retour du Seigneur. C'est son retour qui est notre espérance. Même Paul, dans Philippiens, il dit « Je suis pressé de tous côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, mais pour vous, il est plus nécessaire que je demeure ici. » Paul est en train de dire « Ça serait un peu égoïste de ma part de vouloir partir parce que j'ai encore quelque chose que Dieu veut que je fasse ici. » Et parfois, on aurait hâte juste de mourir puis d'en finir des souffrances. Et puis, oui, c'est normal et naturel de vouloir être dans la présence du Seigneur où ça n'aura plus sa place, la souffrance. Le Nouveau Testament ne nous enseigne pas à avoir hâte à la mort. Le Nouveau Testament nous demande d'avoir hâte au retour du Seigneur. Et si nous mourons avant ce retour, bien, ça sera la volonté de Dieu. Mais on ne doit pas avoir les yeux fixés sur la mort. On doit avoir les yeux fixés sur Jésus. Et c'est lui qui est notre espérance vivante. Désirer mourir, c'est essentiellement égoïste dans la plupart des cas. Mais d'attendre le retour de Christ, c'est de garder notre œil sur notre espérance. Juste préciser, oui, on peut faire face à la mort avec foi et sérénité, pardon. Mais si quelqu'un qui souffre désire juste mourir, peut-être qu'il n'a pas les yeux au bon endroit. Notre espoir, ce n'est pas simplement de faire cesser la souffrance. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Mais je remarque non seulement qu'on est premièrement, on a le fondement de notre espérance qui est Jésus, mais regardez deuxièmement les épreuves en attendant la réalisation de cette espérance. Remarquez au verset 6. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, en attendant notre espérance, nous allons avoir des épreuves. Mais remarquez que ces croyants-là, ils sont dans la joie. Mais la joie ne vient pas de leurs circonstances. Leur joie vient de leur foi en Jésus. Je l'ai déjà dit dans le passé, je vais me répéter ce soir. La joie et le bonheur, ce n'est pas la même chose. Les gens cherchent le bonheur, mais le bonheur et la joie, c'est deux choses différentes. Ça a deux sources différentes. Ça peut se ressembler sur le visage d'une personne. Ça peut se ressembler, mais ce ne sont pas des synonymes. La joie, ça ne vient pas de nos circonstances. On peut avoir le bonheur d'avoir une promotion ou une augmentation au travail. Ça nous donne du bonheur. On peut avoir un nouveau voisin qui est plus agréable que l'ancien voisin. Ça, c'est du bonheur. On peut avoir une bonne nouvelle qui nous vient. Ça, c'est du bonheur. On peut gagner un café sur notre application Tim Hortons. Ça, c'est du bonheur. Petit bonheur, mais quand même. Des choses qui nous arrivent que, « Hey, je suis content que ça m'est arrivé. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. » Qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. La Bible utilise, vous savez, dans le Nouveau Testament, on trouve le mot « bonheur » 5 fois. Puis dans les 5 fois où on trouve le mot « bonheur » dans le Nouveau Testament, c'est toujours la traduction d'un mot qui ailleurs est traduit « bénédiction ». Makarios ou d'autres mots apparentés, qui parlent d'être béni. Donc, parce que j'ai reçu une bénédiction, j'ai du bonheur. Bon, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être un changement de circonstance, mais d'une manière ou d'une autre, je vois bien que je suis béni, et cette bénédiction, on pourrait la traduire par le mot bonheur. La manière que moi, je le dis des fois, c'est que le bonheur, on le voit quand on a des bonnes heures. C'est une bonne heure. Au lieu d'une mauvaise heure, c'est une bonne heure. Le bonheur, ça va bien, tout simplement. Mais la joie, c'est autre chose. Là, on vit dans une culture qui parle beaucoup du bonheur. Selon le New York Times, dans les 3 premiers mois de l'année dernière, sur Amazon seulement, il y a plus de 1 000 livres qui ont été publiés sur le sujet du bonheur, sur Amazon. En anglais, le mot « happiness ». C'est 1 000 livres en 3 mois publiés sur l'idée de trouver le happiness, de trouver le bonheur. Mais vous savez, il y a un phénomène quand même. Parce que quand on parle du passé, il ne parle pas seulement de bonheur. Lisez les biographies des grands hommes, des grandes femmes de ce monde. Ils ne parlent pas de leur bonheur, ils parlent généralement de leurs épreuves. Ce n'est pas le bonheur qui transforme. Ce qui transforme ou ce qui rend grand, ce qui rend puissant, même aux yeux des hommes, ce sont les épreuves. C'est ça qui est le plus significatif. Et les gens visent le bonheur, mais seront probablement prêts à admettre qu'on est transformé plutôt par la souffrance. C'est les épreuves qui nous transforment, c'est pas le bonheur. On a la joie plutôt que le bonheur lorsque nos yeux sont fixés sur notre espérance. La joie, ça vient pas des circonstances. La joie, ça vient de la direction du cœur. Quand ton cœur est fixé sur Jésus-Christ, c'est là que tu peux avoir la joie. Est-ce que tu souris toujours quand tu es dans la joie? Non. Est-ce que tu as toujours le rire lorsque tu es dans la joie? Non. On a la joie, cependant, lorsqu'on est fixé sur notre espérance. Je vais mettre à l'écran Hébreux chapitre 12 et le verset 2. Vous allez remarquer dans ce verset-là que c'est comme ça que Jésus, Dieu fait homme, dans son incarnation humaine, a pu souffrir. Remarquez bien ce que le verset. Si vous l'aviez regardé sur la croix, qu'il avait un sourire fendu d'une oreille à l'autre? Non. Est-ce que pour lui, c'est un moment de plaisir puis de bonheur d'être accroché à la croix? Non. Mais comment est-ce que le verset peut nous dire « en vue de la joie » Parce que Jésus avait le regard sur votre salut et sur le mien. » Puis il savait que s'il allait à la croix, eh bien, nous qui sommes ici ce soir, on pourrait passer l'éternité avec lui dans la gloire. Il a souffert pour nous, par amour pour nous, mais de la même manière, lorsque vous et moi nous souffrons, comment allons-nous avoir de la joie? Ça dépend où tu fixes ton regard. Si tu souffres en sachant que tu es en route vers le ciel, mais non seulement vers le ciel, tu es en route vers la présence du Seigneur Jésus lui-même, qui en plus te réserve un héritage impérissable dans les cieux, et que tu gardes les yeux fixés là, c'est là que malgré la souffrance, tu peux avoir la joie. Mais remarquez ce qui fait notre joie à nous. On a vu ce qui a fait la joie de Jésus, mais remarquez ce qui fait notre joie à nous, parce que ça dit bien au verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie. » Quoi? Ben, au verset 3, « Une espérance vivante, c'est-à-dire Jésus-Christ ressuscité, il fait notre joie. » Verset 4, « Notre héritage incorruptible qui nous attend, ça fait notre joie. » Verset 5, « La délivrance que nous attendons et pour laquelle nous sommes gardés par la puissance de Dieu et par la foi. » C'est ça, c'est là ce qui fait votre joie. Mais remarquez, quoique maintenant, puisqu'il le faut, qu'il faut qu'on souffre. C'est pas moi qui le dis, c'est le verset qui le dit. Ça dit, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il faut, en attendant, que nous soyons attristés par des épreuves. Cette tristesse-là, ces épreuves-là sont nécessaires pour nous purifier, comme ça dit dans le verset. Cette purification par l'épreuve va aussi maximiser notre récompense lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus aime tout le monde. Puis Jésus va recevoir joyeusement tous les croyants au ciel. Mais ce ne seront pas tous les croyants qui vont au ciel qui vont être honorés au même degré au jugement de Christ. Il y a des croyants qui vont arriver avec une foule de récompenses qui les attendent, puis il y en a qui vont arriver, puis juste le simple fait qu'ils entrent au ciel, ce sera déjà bien. Ils vont être sauvés comme au travers du feu, sans récompense. Il y a des gens qui vont arriver au ciel et honnêtement, leur vie aura apporté beaucoup de gloire au Seigneur. D'autres qui vont entrer au ciel, mais leur vie n'aura pas vraiment apporté de gloire au Seigneur. Puis ce verset démontre que ce qui doit être précieux à nos yeux, c'est ce qui est éternel. Pas l'argent, pas le matériel, pas les diplômes du monde, pas une carrière temporelle, pas une notoriété ici-bas. Ce qui doit être important à nos yeux doit se rattacher à Jésus-Christ, puis à l'éternité. Puis la souffrance aide à révéler ce qui est important et prioritaire pour nous. Puis la souffrance met à l'épreuve notre foi et démontre où nous chercherons secours et refuge. Mais aussi l'épreuve démontre quel secours et quel refuge nous allons délaisser dans l'épreuve aussi. Mais je termine avec les versets 8 et 9. La joie par l'amour de Jésus, en attendant la réalisation de notre espérance. Remarquez les versets 8 et 9. Ça dit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Marcher par la foi, ça signifie de diriger sa vie sur la base de ce que nous n'avons pas encore vu, plutôt que sur la base de ce que nous voyons. Vous savez, il y a une expression francophone populaire que vous connaissez sans doute. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Okay? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est peut-être vrai dans le monde des affaires. C'est peut-être vrai dans les relations humaines. Mais dans le monde spirituel, c'est un terrible conseil. C'est un terrible conseil de dire, « Ah, ben moi, j'aime mieux avoir une bénédiction ici sur terre que d'attendre pour voir ce que j'aurai au ciel. » Honnêtement, ça peut aller, là, si on veut dire, « OK, ben est-ce que j'aime mieux prendre la certitude financière que de prendre le risque? » OK. Mais dans les choses spirituelles puis dans les promesses de Dieu, un « tu l'auras au ciel », ça vaut mieux que deux « tiens ». Okay? Ce que Dieu nous réserve dans les cieux, c'est infiniment meilleur que ce qu'on peut acquérir dans ce monde. Finalement, ceux qui auront souffert pour Jésus en refusant même peut-être la délivrance, je pense à des gens qui sont persécutés, par exemple, qui pourraient, en reniant le Seigneur Jésus de la bouche, enlever leur souffrance temporelle Mais non, ils préfèrent avoir ce que Dieu leur réserve dans les cieux que d'avoir un sursis de souffrance ici-bas. Parce que lorsqu'on parle de ce que Dieu nous réserve, un, tu l'auras dans les cieux, vaut mieux que tous les tiens que tu peux avoir dans ce monde. Puis c'est un bon conseil peut-être pour les finances, prends ce qui est certain plutôt que ce qui est incertain, mais c'est peut-être un très mauvais conseil de vie spirituelle. Sans avoir vu Jésus, le verset 8 nous dit qu'on l'aime et on croit en lui. Marquez que cette croyance en lui, vous réjouissant d'une joie ineffable, ineffable c'est un mot qui veut dire on ne peut pas le mettre en mots, et glorieuse, parce que notre foi nous donnera le salut de nos âmes. Maintenant, le mot salut, il faut toujours le mettre dans son contexte. Le mot salut, à la base, ça veut dire délivrance. Il faut se poser la question, délivrance de quoi? Dans certains passages, le mot salut veut dire délivré de nos péchés. C'est comme ça qu'on le prend généralement quand on dit notre salut, on veut dire qu'on est délivré de la pénalité de nos péchés. Mais le mot salut peut vouloir dire aussi délivré de l'épreuve, délivré de la souffrance dans son contexte. Puis, en lisant ces versets-là, il me semble que Pierre parle davantage ici du salut dans le sens de la délivrance de la souffrance, plutôt que dans le sens du pardon des péchés. Parce que remarquez ce qu'il dit, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » C'est que, en marchant par la foi, puis en souffrant par la foi, le jour vient où Jésus va nous délivrer de cette souffrance. Dans ce sens-là, on sera sauvé. Maintenant, on peut le prendre d'une autre manière, si vous préférez. Le salut, il y a au moins trois étapes. On a le salut de nos péchés. Ça, c'est réglé une fois pour toutes. Tu reçois Jésus comme ton sauveur. Maintenant, plus on est sanctifié, non seulement on a été délivré de la pénalité du péché, mais on est délivré de la puissance du péché, parce que le péché a de moins en moins d'emprise sur nous. Puis gloire à Dieu, lorsqu'on sera avec le Seigneur Jésus, nous serons sauvés du péché dans le sens où on va être délivré de la présence même du péché. On est délivré de la pénalité du péché lorsqu'on reçoit Jésus. Alors qu'on est sanctifié, on est progressivement délivré de la puissance du péché. Mais un jour, on sera délivré de la présence même du péché. Mais ici, je crois qu'il parle vraiment de cette délivrance même de l'épreuve. Puis ces versets-là nous encouragent à continuer à aimer Jésus, au point même d'accepter de souffrir pour lui, de continuer à croire à son retour, puis à sa délivrance prochaine. Puis lorsque nous vivons ainsi, nos cœurs sont remplis d'une joie, pas d'un simple bonheur, peut-être pas de bonheur, peut-être les circonstances sont mauvaises, mais on est rempli d'une joie qu'on ne parvient pas à décrire et qui nous motive encore à vivre pour la gloire de Jésus. J'aime pas trop aller dans les funérailles. Je pense pas que qui que ce soit aime ça. On le fait par amour pour la personne qui a perdu quelqu'un, ou peut-être par respect pour l'être cher que nous-mêmes on a perdu, ou pour toutes sortes de raisons, évidemment. Mais vous savez, il y a une différence marquante entre une funéraille chrétienne puis une funéraille où les gens sont sans espoir. À plus d'une reprise, dans ma vie, j'ai entendu de mes oreilles, soit le directeur du salon mortuaire ou des employés dire « Ils ne sont vraiment pas comme les autres. » Je ne m'oublierai jamais quand j'étais enfant, puis on avait enterré Mme Lise Jobin à Boucherville. Ça chantait à tue-tête dans le salon funéraire, comme dans une réunion d'église où l'ambiance est survoltée. Puis les gens du salon mortuaire se demandaient « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Puis finalement, quelqu'un leur a dit « C'est parce qu'on sait qu'on va la revoir au ciel. » C'est juste un au revoir. Puis, en tout cas, l'ambiance était complètement différente de ce qui était habitué. Pourquoi? Parce que même dans la tristesse et même dans une mauvaise journée comme celle-là, il y avait une joie. Une joie, pourquoi? Parce que nos regards étaient fixés sur Jésus en sachant que notre sœur était avec lui et que nous aussi, on va être avec lui et qu'un jour, nos souffrances vont prendre fin et qu'on va le revoir puis qu'on va trouver aussi notre héritage qui est dans les cieux. Ta perspective change tout. Simon Weil, philosophe, a dit « L'extrême grandeur du christianisme réside dans le fait qu'il ne cherche pas un remède surnaturel à la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. » Je répète. L'extrême grandeur du christianisme réside dans le fait qu'il ne cherche pas un remède surnaturel à la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. En tant que chrétien, on sait que le jour vient où le remède va être là. Son nom, c'est Jésus. Mais en attendant ce jour où le remède va nous être donné par le retour de Jésus, jusqu'à ce jour-là, on cherche un usage surnaturel. Seigneur, pourquoi tu permets que je passe par ça? Seigneur, qu'est-ce que tu désires purifier dans ma vie par ça? Seigneur, quel héritage de gloire est-ce que tu prépares pour moi dans les cieux par ça? Je ne connais pas Simone Weil, j'ai aucune idée de ce que cette personne-là a écrit d'autre, mais j'ai aimé cette citation-là. Est-ce que vous accordez la priorité à votre souffrance en tant que source de gloire dans votre vie? Ou est-ce que pour vous, souffrir, c'est quelque chose qui est à éviter à tout prix? Mais non, je ne dis pas que qui que ce soit va se jeter volontiers, par exprès, dans les bras de la souffrance, non. Mais quand inévitablement elle vient, est-ce que notre obsession complète, c'est de s'en débarrasser, ou sommes-nous prêts, si Dieu le permet, à souffrir? Surtout souffrir pour lui. Mais ensuite aussi, pourquoi est-ce que c'est important pour nous de faire la distinction entre le bonheur et la joie? On ne peut pas toujours avoir le bonheur, c'est impossible. C'est impossible, en ce monde, d'avoir que des bonnes journées. Le jour où le péché est entré dans ce monde, cela est devenu une impossibilité. Mais ce qui peut être constant, par contre, c'est nos regards portés vers Jésus, et ça peut influencer notre manière d'aborder les défis de la vie. Et puis aussi, comment est-ce que l'idée d'utiliser la souffrance de manière surnaturelle, plutôt que de chercher un remède pour la souffrance, peut influencer notre façon de voir puis de réagir aux épreuves de la vie? Donc, une autre manière de le dire peut-être, lorsque la prochaine souffrance va venir, est-ce que vous allez dire, Seigneur, qu'est-ce que tu cherches à accomplir ici? Ou est-ce que vous allez tout de suite passer en mode débarras? Je trouve une façon de me débarrasser de cette situation-là au plus vite. C'est naturel de vouloir chercher des solutions, puis quand Dieu pourvoit une solution, on la prend, oui. Mais plus que simplement de se débarrasser de la souffrance, est-ce qu'on va dire, Seigneur, tu nous as dit qu'il faut qu'on souffre ici-bas. Pourquoi le permets-tu? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Mais surtout, Seigneur, aide-moi à garder les regards sur Jésus, parce que c'est lui mon espérance vivante. Aide-moi à garder les yeux sur ton retour, qui va être la solution ultime à la souffrance. Aide-moi à garder les yeux sur le trésor céleste qui grandit au fur et à mesure que je souffre pour toi. Puis aide-moi à avoir une perspective éternelle et spirituelle sur la souffrance. C'est un message que probablement je vais devoir me prêcher à moi-même un jour. Peut-être qu'un jour je passais par une circonstance, puis bang, ce message-là, ce sermon-là va retomber sous mes yeux, puis je saurai que ce jour-là, ça n'a pas été préparé pour vous, ça a été préparé pour moi. Mais je sais ceci, que on est appelé à souffrir. Mais on sait aussi que Jésus vient bientôt, puis qu'on doit garder les yeux sur son retour et sur les perspectives éternelles. Ce ne sera jamais le fun, comme on dit, de souffrir, mais c'est très utile. Ça peut être à la gloire de Dieu. Gardons une perspective biblique sur la souffrance. Père Céleste, merci de m'en avoir parlé dans ce passage de la souffrance. Puis aide-nous, enseigne-nous à souffrir comme Jésus a souffert. Oui, il est venu pour nous racheter, mais il est venu aussi pour nous donner un exemple. Alors aide-nous à tirer le son de ces versets-là, à méditer ces choses le reste de cette soirée, et à que le Saint-Esprit puisse appliquer ces versets-là individuellement à chacun de nos cœurs. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.